Radio Prague, les informations.
Le chef du cabinet proposera de modifier l'actuelle loi sur les écoutes téléphoniques. Le parti des Verts soutiendra le cabinet de Polanek. Des manifestations d'anarchistes et de communistes contre l'implantation d'une base antimissile américaine en Tchéquie. L'affaire d'écoute téléphonique continue à faire la une de l'actualité. Le chef du cabinet proposera de modifier l'actuelle loi sur les écoutes téléphoniques qui, d'après lui, ne répond pas à la norme européenne. Il a réagi ainsi à la réunion de la Chambre des députés qui a révélé que lors de l'enquête sur la fuite d'informations d'un rapport secret dénonçant l'infiltration du crime organisé dans l'administration d'État, la police a écouté 2 politiciens, 3 policiers et 2 journalistes dont 1 de la radio tchèque. Toutes les écoutes ont été effectuées avec le mandat judiciaire. Or, la police a également écouté les proches de ces personnes qui n'avaient rien à voir avec l'enquête. Les écoutes ont été ordonnées par le juge le 4 septembre dernier, jour de l'entrée dans les fonctions du nouveau cabinet Topolanek. La Chambre des députés l'a appelé à démissionner. Le Conseil national du Parti des Verts a décidé de soutenir le cabinet minoritaire de l'ODS de Mirek Topolánek qui demandera mardi prochain la confiance des députés. Le président Václav Klaus poursuit sa visite au Vietnam. La direction de ce pays communiste est plutôt pragmatique qu'idéologique, a dit à Hanoï le président tchèque. Avec ses 83 millions d'habitants, il représente un immense potentiel économique. Un pont naturel entre la Tchéquie et le Vietnam sont des contacts noués sous le régime communiste et grâce auxquels près de 200 000 Vietnamiens parlent tchèque. Dans la ville de Přerov, près de 70 personnes ont pris part à une marche organisée par le Parti communiste en signe de protestation contre l'implantation d'une base antimissile américaine sur le territoire tchèque. Des manifs d'anarchistes contre l'implantation de ces bases en Tchéquie et ailleurs en Europe ont eu lieu dans la ville de Trocnov et Čáslav. Dans la région de Teplice, à Bohosudov, des sapeurs-pompiers ont dû évacuer un téléphérique qui s'est arrêté à cause d'une panne technique. Une 30aine de personnes ont été bloquées. Personne n'a été blessé. Par contre, 6 personnes ont trouvé la mort lors d'une collision d'un véhicule Volkswagen avec un camion près de Prostějov, à Moravie centrale. Une exposition de Rome célèbre s'ouvre à la galerie Au Coq d'Or à Prague. Son titre, Les Roms aujourd'hui, est sous une autre optique en dilant sur son objectif, présenter les Roms qui ont acquis une reconnaissance de la société dans le domaine de la musique, des sports, du théâtre, etc. Un ciel couvert, des précipitations et des températures comprises entre 17 et 22 degrés sont prévues pour dimanche, jour de fête des Igor. C'était les informations par Yarka Gusublova.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Il y a des hommes qui sont incommodes à tous les régimes. Tel était aussi le journaliste, essayiste et historien Závis Kalandra. Marxiste, il était opposé au capitalisme démocratique de la première république tchécoslovaque fondée par Masaryk. Homme épris de vérité, il dénonçait les aberrations et les crimes du régime stalinien en Union soviétique. Esprit individualiste, il ne pouvait pas ne pas voir les failles du marxisme dogmatique et il était poussé naturellement à interpréter et à développer l'enseignement de Karl Marx. Et dans le siècle où les masses fascinées par l'aura des dictateurs se livraient sans broncher à des régimes totalitaires, il était condamné à être solitaire et il a payé finalement son indépendance par sa vie. Nous ne savons que peu de choses sur la jeunesse de Závish Kalandra. Son grand-père était directeur général des chemins de fer d'Autriche-Hongrie à Vienne. Son père était médecin de campagne, ami du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk. Závish est né en 1902 dans la ville de Frenštát en Moravie du Nord. Une photo d'enfance montre un beau garçon plein de vie, au visage lisse, où la naïveté enfantine jure avec la fermeté étonnante du regard. Il est intéressant de comparer cette image avec une photo prise beaucoup plus tard, en 1945, lorsque Závish Kalandra avait 43 ans. La beauté a disparu, le visage est émacié et ascétique, les cheveux reculent au front, mais les yeux sont toujours aussi scrutateurs et nous fixent avec la même fermeté. On est tenté d'en déduire que, déjà dans son enfance, Závish Kalandra n'était pas un garçon comme les autres. Après la Première Guerre mondiale, Závish étudie la philologie classique et la philosophie à l'Université Charles de Prague. Attiré irrésistiblement par la gauche, il entre au Parti communiste et après avoir fini ses études, il devient journaliste communiste de renom et travaille successivement dans plusieurs journaux du parti. Pendant quelque temps, Závish Kalandra cherche, il ne peut pas en être autrement, la réponse à la question cruciale. Faut-il croire à tout prix au Parti communiste? Son répugnance des simulacres, son individualisme inné et sa recherche de la liberté spirituelle l'obligeront finalement à dire non, et cela le mènera loin, car c'est le début de la suite des conflits qui l'opposeront à ses amis communistes et finiront par son expulsion du parti. La série de ses malheurs a commencé, et elle ne s'arrêtera plus. En 1936, Kalandra proteste contre les procès staliniens en Union soviétique qui coûtent la vie à de nombreux leaders communistes remplacés aussitôt dans leur poste par des valets de Staline. Kalandra, qui connaît les victimes de ces purges cruelles, qualifie les procès de crimes contre l'internationalisme prolétarien. Il commet aussi le crime de lèse-majesté en dénonçant la brutalité et la vulgarité de Staline, considérée comme intouchable par la majorité des communistes. Il s'en prend également à ses collègues journalistes, Fučík, Konrád, Stoll, Neumann, Schwerma, fustige leur servilité et leur docilité au parti, et va jusqu'à qualifier le chef du parti, Klement Gottwald, futur président de la Tchécoslovaquie communiste, d'homme atteint d'une infection mentale immonde. On crie à la trahison, on le qualifie de trotskiste, on le chasse du parti, et ce qui est pire, sa trahison ne sera pas oubliée. Journaliste renommé, essayiste brillant, penseur original, Kalandra n'en est pas moins un homme qui manque de sens des choses pratiques et n'arrive tout simplement pas à gagner sa vie. Après l'expulsion du Parti communiste, il devra renoncer à son poste dans le journal Rude Pravo, ses revenus se rétrécissent et il ne subsiste que grâce à sa femme, le peintre Ludmila Rambowska, auteur de nombreuses caricatures et d'illustrations de livres. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Závish Kalandra est déporté et passe 6 ans dans les camps de concentration de Ravensbrück et de Sachsenhausen. Dans le camp de Ravensbrück, il rencontre la journaliste Milena Jesenská, amie de Franz Kafka, elle aussi guérie de l'idéalisme communiste. Milena ne survivra pas aux épreuves terribles du camp de concentration. Závish reviendra en 1945 à Prague. Il ne veut plus faire de la politique et envisage de se concentrer sur ses essais et ses ouvrages d'histoire. Il réécrit son œuvre majeure, Le paganisme tchèque, une interprétation phénoménale des racines historiques du peuple tchèque, œuvre qui a été confisquée en 1939 par la Gestapo. Il peut se permettre le luxe de se concentrer sur son œuvre grâce à sa femme, qui continue de le soutenir. Son dernier livre achevé, La réalité du rêve, développe un sujet cher à Závish Kalandra, la naissance des rêves et les mécanismes qui les engendrent. Le texte incomplet de cet ouvrage sera sauvé, malgré la vigilance de la police politique, par son ami, le docteur Ungar. On dit que Zavish Kalandra a été écroué par hasard. En 1949, la police, venue arrêter son ami, le docteur Ungar, trouve Kalandra dans l'appartement du docteur. En ce moment, on prépare le procès contre Milada Horáková, juriste, ancienne députée et leader du Parti national socialiste tchèque, qui a refusé de plier face au régime totalitaire communiste, désormais au pouvoir en Tchécoslovaquie, après le coup de Prague en 1948. L'arrestation fortuite de Zavish Kalandra, qui devait se terminer par sa libération immédiate, convient aux autorités qui cherchent des éléments compromettants contre Milada Horáková et ses collaborateurs. Kalandra, qualifié jadis de trotskiste, est l'homme qu'il leur faut. Il leur est égal que Kalandra ne connaît pratiquement pas Horáková ni les personnes de son entourage. La machine infernale des procès staliniens se met en marche. Les enquêteurs de la police politique, aidés par des conseillers soviétiques, disposent de méthodes efficaces pour obliger les accusés à avouer tous les crimes imaginables. Lucide et sans illusion, Zavish Kalandra, qui a dénoncé déjà dans les années 30 les mécanismes de ce genre de procès, sait qu'il est perdu dès le début de l'instruction. Malgré cela, il n'est pas une proie facile. Selon l'historien Karel Kaplan, les enquêteurs l'auraient interrogé et torturé sans interruption 3 jours et 3 nuits. Finalement, il craque et signe le procès verbal. Comme les autres accusés, il récitera ensuite devant le tribunal un texte appris par cœur, s'accusant de crimes inexistants, impossibles et absurdes. À la différence des autres accusés qui se prêtent à cette comédie horrible, sa voix est teintée d'ironie. Reconnu coupable de haute trahison, il est condamné à mort en même temps que Milada Horáková. La publicité énorme qu'on fait à ce procès déclenche parmi les gens exposés à une propagande intensive une réaction proche du fanatisme. On demande la peine la plus sévère pour les condamnés, des lettres et des pétitions signées par des groupes d'ouvriers exigent leur mort. Il y a cependant aussi des demandes en grâce. Beaucoup plus pour Milada Horáková que pour Zavish Kalandra. Pourtant, Albert Einstein prie par téléphone le président Gottwald de gracier le condamné. André Breton, qui apprécie beaucoup l'esprit analytique de Zavish Kalandra, prie Paul Éluard, membre du Parti communiste français, d'intervenir en sa faveur. Éluard, évasif, lui répond toutefois qu'il entend trop de cris des innocents pour s'occuper de ceux qui ont avoué leur faute. Ludmila Rambowska écrit au président Gottwald. Dans une lettre émouvante, elle cherche à sauver son mari en le présentant comme un homme souffrant de dépression qui n'arrive pas à se remettre des épreuves des 6 années passées dans les camps de concentration. Tout est vain. Zavish Kalandra est exécuté le 26 juin 1950. Athée, il n'a même pas la consolation de la foi. Il entre dans le néant. Sa femme ne survivra que 2 ans à son exécution. Je vous ai présenté un petit portrait du journaliste, historien et philologue Zavish Kalandra. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter, qui remercie Jarka Fekrlova, réalisation technique, et Jana Juzova, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
C'est aux Roms,
Romové,
ou si vous préférez aux Tziganes,
Tzikani,
ou encore aux Bohémiens que sera consacrée cette nouvelle émission. L'occasion d'expliquer l'usage de ces différentes appellations, mais aussi de présenter quelques expressions de la langue tchèque relatives à ce peuple très présent en Europe centrale. Dans les langues européennes, les Roms
Romové
sont connus sous différentes appellations. Il n'en est pas autrement en tchèque. Officiellement, on parle donc de Rome, mais aussi souvent de
Tsigan,
même si l'emploi de cette appellation est généralement considéré comme politiquement incorrect. N'empêche, sans forcément avoir de propos ou d'arrière-pensée à caractère ou connotation raciste, les Tchèques, lorsqu'ils conversent entre eux, parlent toujours ou presque des
Tsigani.
Un usage populaire que l'on ne retrouve pas, en revanche, dans les médias, ni bien entendu dans les déclarations officielles, par exemple celles des responsables politiques. Pour se convaincre de cette réalité, il suffit de remarquer qu'il existe de nombreuses expressions idiomatiques faisant référence aux
Tsigani,
mais aucune évoquant les Roms. Les Tsiganes, eux-mêmes, se donnent le nom de Roms depuis leur congrès fédérateur de 1971. Tous les autres termes servant à les désigner ont été donnés par des non-Roms. Ainsi, en français, les Roms sont désignés de différentes façons et comme vous le savez, on parle parfois des Bohémiens, une appellation qui fait référence à la Bohême, une des deux régions qui composent la République tchèque aujourd'hui. Les Tsiganes ont donc été appelés Bohémiens car les premiers d'entre eux qui sont arrivés en France venaient tout simplement de la Bohême, avec en leur possession un sauf-conduit édité en 1423 par Sigismond, empereur romain et roi de Bohême. Ce sauf-conduit, que l'on pourrait comparer à un passeport, servait à leur protection lors de leur voyage et leur permettait de se rendre et de séjourner dans certains lieux. Ainsi donc sont apparus les Bohémiens en France. Concernant les expressions idiomatiques et autres comparaisons relatives aux tziganes qui figurent dans la langue tchèque, nous pouvons en relever plusieurs. Ainsi, par exemple, de quelqu'un d'ivre, saoul, vous pouvez parfois entendre dire qu'il appelle tzigane un chien blanc.
Říká bílému psu tzigán.
Autre expression se rapportant à la couleur sombre de la peau des tziganes et employée autrefois pour faire comprendre que l'on était en train d'accomplir une tâche inutilement, laver un tzigane.
Tzigana mit.
On avait recours à cette formule, par exemple, lorsqu'on s'efforçait de raisonner une personne têtue ou de convaincre un imbécile. Deux expressions certes péjoratives, mais dont on comprend un peu mieux l'existence et l'usage si l'on remarque que pendant très longtemps, depuis leur apparition sur le territoire de la Bohême, sans doute au XIVe siècle, les Tsiganes ont été les seuls gens ayant une apparence physique différente de celle des Tchèques, avec une peau sombre donc, mais aussi des cheveux et des yeux noirs. D'ailleurs, lorsqu'ils évoquent quelque chose de très noir, les Tchèques disent parfois que c'est noir comme un Tsigane.
Černý jako Tsigán.
La majorité des comparaisons se référant aux tziganes sont à connotation négative et traduisent leur mauvaise image, celle d'un peuple réputé voleur, menteur et sale. Nous ferons donc abstraction de leur présentation. Relevons toutefois que l'on peut se disputer ou jurer dans le sens d'affirmer quelque chose de manière catégorique comme un vieux tzigane.
Hádá se, dušuje se jako starý tzigán.
Enfin, autre comparaison digne d'être mentionnée.
Cpe se jak tzigán do kostela.
Soit il se bouscule, se presse, comme un tzigane va, se rend à l'église. Or, les tziganes n'étant pas très pratiquants, le sens est tout à fait contraire. Cela signifie que la personne en question ne se dépêche pas et préférerait ne pas aller là où elle doit se rendre.
Sovinča ve sove, ideča te kana ma.
Voilà, c'est ainsi que prend fin ce tchèque du bout de la langue consacré à l'usage des appellations roms et tziganes dans la langue tchèque et à ce que l'on pourrait appeler la présence tzigane dans différentes expressions populaires. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil automnal en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
courrier des auditeurs. Alexis Rosenzweig.
Je suis français et ai enseigné l'histoire durant 42 ans. Il y a longtemps que je voulais vous faire part de mon témoignage et de l'admiration que j'ai pour votre pays. J'annonce tout de suite que je n'ai pas grandi dans une famille qui vouait au communisme un amour particulier, bien au contraire. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec la lettre envoyée par Louis Renaud Guittard de Seine-et-le-Châtel en France que nous commençons cette émission consacrée à votre courrier. Je poursuis donc la lecture. En 1968, j'étais étudiant en droit et en histoire. J'avais déjà été, très jeune, très marqué par la révolution hongroise menée par des jeunes qui avaient mon âge. En 1968 donc, jeune homme, très intéressé par la politique et les événements mondiaux, je me suis passionné pour ce qui était déjà appelé le printemps de Prague. Heure après heure et jour après jour, je suivais, à la radio française et le soir sur les ondes courtes, les événements qui se déroulaient dans votre pays. C'était, à ce moment-là, quelque chose d'irréel. Nous connaissions en France une situation insurrectionnelle, avec des étudiants et ouvriers fascinés par le communisme et le maoïsme. Ils rêvaient d'un régime comme vous le connaissiez, et vous, vous luttiez, à ce moment-là, derrière Dubček. Ici, dans mon pays, j'étais révolté. Je disais que l'on pouvait remplir des avions pour envoyer là-bas nos révolutionnaires et accueillir chez nous vos étudiants assoiffés de liberté. Une chose est certaine, durant tout l'été, j'écoutais tous les soirs sur les ondes courtes les radios étudiantes tchèques qui émettaient en français. Et puis, peu à peu, elles se sont tues les unes après les autres devant l'avancée des troupes soviétiques. Tous ces instants sont encore si présents dans ma mémoire. Je n'ai pu, à ce moment-là, m'empêcher d'écrire à l'ambassade de France à Prague pour exprimer mon indignation. Ma surprise a été, quelques semaines plus tard, de recevoir une lettre d'une jeune étudiante tchèque, Vera. Elle me disait avoir lu ma lettre à l'ambassade. Elle m'exprimait sa sympathie. Nous avons longtemps correspondu, elle s'est mariée et finalement, dans des conditions invraisemblables, a fui le régime avec son mari et ses enfants, dont le dernier était tout bébé. Ils ont trouvé refuge en Allemagne. Je l'ai rencontrée en Allemagne, puis elle m'a rendu visite en France, il y a une quinzaine d'années. Je regrette aujourd'hui beaucoup d'avoir perdu sa trace. Si vous pouviez m'aider éventuellement à la retrouver, ce serait pour moi une joie phénoménale et un bonheur fantastique. Son nom de femme mariée est Eder, E-D-E-R, Ederova chez vous. Passons sur ce point personnel. En janvier 1969, mon émotion a monté encore plus à l'annonce du martyr de Jan Palach. Et votre pays est retombé pour 20 ans dans les ténèbres et sous la dictature. Je suis devenu professeur d'histoire et les programmes m'ont amené à enseigner l'histoire immédiate. Ici, le communisme était présenté comme un régime idéal, alors que l'on en connaissait tous les crimes commis en Russie, en Ukraine, en Chine et partout où il s'était installé. Jamais dans mes cours, je n'ai suivi cette ligne. J'ai toujours dit et enseigné qu'un tel régime, qui ne s'appuyait et durait que par la terreur et les armes, ne pouvait qu'un jour ou l'autre s'effondrer. Il arrive toujours dans les dictatures qu'un jour la peur ne fait plus peur à la peur, et tout s'effondre devant la volonté des peuples. Vous avez connu la révolution de velours avec ces hommes admirables que sont Václav Havel et Alexander Dubček, qui auraient certainement fait perdurer la Tchécoslovaquie. Ces soirées de Prague ont été pour moi inoubliables et représentaient une revanche fantastique avec le retour des artisans et acteurs du printemps de Prague. Enfin, durant mes cours, j'ai toujours présenté Jan Palach comme un modèle et un héros de la liberté à mes élèves. Je leur ai montré deux films dont je dispose et que vous devez connaître, un film clandestin qui le montre sur son lit de souffrance et un film diffusé après la chute du régime, avec les témoignages de ceux qui ont accompagné son agonie. J'ai eu la chance dans les années 80 de visiter Prague et ses environs, j'en ai gardé un souvenir inoubliable. C'est une des plus belles villes d'Europe et j'espère un jour avoir les moyens d'y retourner un peu plus longuement et surtout, cette fois-ci, de pouvoir me recueillir et déposer des fleurs avec un mot, un français qui n'oublie pas, sur la tombe de Jan Palach, ce que je n'avais pu faire à l'époque, régime oblige. Voilà un tout petit témoignage d'un ex-professeur français en histoire qui est à la retraite, mais qui n'oublie pas que votre pays est un grand pays de culture, un grand exemple de résistance et de démocratie. On poursuit cette émission avec la lettre adressée par Hervé Brian de Talence en France, Hervé Brian, pardon, qui nous écrit « La nouvelle que vous avez diffusée lors de la rubrique Le Week-end sportif de lundi n'a fait que confirmer mes craintes et m'a rempli de tristesse. Vous annoncez que lors du meeting du Décastar à Talence, Tomáš Dvořák avait certainement fait là son dernier décathlon. Et effectivement, c'est ce que Guillaume Narguet nous a annoncé dans sa dernière rubrique sportive. Merci à Hervé Brien donc pour son petit mot et surtout pour les photos de Tomáš Dvořák qu'il nous a envoyées, que nous mettrons sur notre adresse, sur notre site internet à l'adresse www.radio.cz. Ensuite, je continue avec un auditeur occasionnel de Radio Prague qui nous écrit également de Talence, comme Hervé Brien en France, pour nous dire qu'il est très content que nous maintenions nos émissions en français, émissions culturelles et de musique souvent d'un grand intérêt. Et puis, merci à nos auditeurs fidèles qui nous envoient des rapports d'écoute. Je cite notamment Jean-Michel Aubier, Philippe Marsan, Daniel Stepanowski, ou Stepanowski, ça dépend comment on prononce, Fabien Battesti, Maurice Mercier, Christiane Peters de Belgique, Christian Canoën, et puis à nouveau Philippe Marsan, Achille Migan qui nous écrit de Côte d'Ivoire. C'est un email de Dabou pour nous dire qu'il ne reçoit bien sûr ondes courtes. Très bonne réception et bonne continuation, écrit-il. Un autre qui nous vient également de Côte d'Ivoire, il est signé Bienvenue Amou. Non, il nous vient du Togo, à Lomé, la capitale du Togo. Bienvenue Amou, merci beaucoup pour votre email. Et puis, ce dernier email qui nous vient de notre fidèle auditeur de Parakou au Bénin, il s'agit d'Issa Mikaela, qui nous écrit très souvent par Internet. Et si vous voulez nous écrire par la poste normale, vous connaissez l'adresse Vinohradska 12 120 99 Praha 2. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'hésitez pas à continuer à nous écrire français@radio.cz. À très bientôt sur les antennes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.